Le service plume et pinceau sur fond de crayonné habile présente...
Franquin par Franquin. Proposé par Fred Janin et Nicolas Van Doren.
C'est mal foutu, mais ça donne bien.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'André Franquin.
Oui, oui, oui.
Franquin, dessinateur bruxellois hors pair, et un des plus extraordinaires auteurs de bande dessinée de sa génération.
Bon, en fait.
Reconnu, admiré, souvent copié, jamais égalé. Franquin, après avoir repris au pied levé la série Spirou, chez Dupuis, que JG avait lui-même reprise à Robvel, s'est montré plus créatif et talentueux que ses prédécesseurs. Franquin s'est révélé particulièrement surdoué. Il est le créateur du Marsupilami, Champignac, Zorglub, Zantafio, Sécotine, Modeste et Pompon, Le Petit Noël, Les Idées Noires, Les Tifous et bien d'autres.
Oui, 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 oui.
Mais surtout, Gaston Lagaffe,
bon, enfin.
De loin son personnage préféré. Tous ceux qui ont connu Franquin diront que son talent et son génie n'avaient d'égal que sa modestie. Il n'aimait pas se mettre en avant.
Oh, quelle horreur ici. C'est abominable.
Ou parler de lui.
Je plaide coupable.
Au milieu des années 80, Numa Sadoul, un jeune homme passionné de BD, arrive astucieusement à convaincre Franquin de lui donner une longue, longue, très très longue interview sur sa vie et son œuvre.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries ?
Les entretiens vont durer plusieurs jours et Numa Sadoul en tirera un livre intitulé « Et Franquin créa la gaffe ».
Bon, enfin.
Les enregistrements sur cassette audio de ces conversations n'ont jamais été offerts au grand public. Vous allez pouvoir les entendre pour la première fois.
Je suis extrêmement content,
Numa Sadoul,
qu'on puisse enfin exhumer ce qui était sur ces cassettes et qu'on le livre, en partie, du moins, aux fanatiques, aux amis, aux amoureux, aux admirateurs, aux auditeurs aussi.
Allô, Franquin, c'est Marcel. Marcel Gauthier, de Paris, Paname, je vois ce que je veux dire. Je me disais comme ça que si vous arrêtez le trombone illustré, vous allez pas faire cette connerie-là quand même, mais on sait jamais. Peut-être que ça te plairait de continuer les idées noires dans tout le glacial. Les noirs, idées noires. Mais tu comprends pas le français ou quoi? Moi, en tout cas, ça me ferait vachement plaisir de reprendre les idées noires. Vachement content je serais dans plus de glacial. Ok? Bon, bah d'accord, alors là on se rappelle. Je peux monter à Bruxelles avec diamant ou sans diamant parce qu'il parle trop bien. Pour qu'on en cause. Bon, allez, salut Franquin, salut André. Et t'embrasse bien Liliane de ma part. Ciao! Alors en plus de André et de Liliane, bien sûr, j'embrasse aussi Isabelle très éboulument et vachement.
La voix que vous venez d'entendre est celle de Marcel Gottlieb, l'auteur des Dingos Dossiers, avec Goscinny dans Pilote, mais aussi de la rubrique Abrac, Guéluron, Hamster Jovial, et le fondateur de L'Écho des Savanes, avec Bretéché et Mandrika. Gottlieb est surtout le créateur de Fluide Glacial, en 1975, un mensuel d'humour, de dérision, de parodie et de bande dessinée, dans lequel Franquin développera ses fameuses idées noires. Les idées noires, c'est quoi? Franquin s'explique au micro de Fabienne Van de Merch et Francis Beutars dans Génération 80.
Mais ce sont toujours des gags. En somme, ce sont toujours des gags et c'est toujours fait pour faire rire. Donc, c'est un peu comme les gags de Gaston.
Oui, enfin, oui.
C'est évidemment un petit peu différent comme préoccupation et comme genre de gag. Oui.
Elles vous viennent comment, ces idées noires?
Eh bien, je me suis aperçu un jour dans un scénario de Spirou c'est un scénario fait en collaboration avec Greg et il m'avait fait une séance de torture pour rire. On torturait un personnage et pour lui faire avouer je ne sais quoi. Et il avait inventé un docteur Kilikil, le nom était assez bien trouvé, je dois dire. Et sa torture consistait à faire grincer une craie sur un tableau noir. Hein, vous avez... Comme la fourchette sur l'assiette. Alors, moi, j'avais corsé un petit peu parce que le docteur Kilikil se cassait un ongle, ce qui rendait ça encore un petit peu plus désagréable. Et alors, j'ai eu beaucoup de reproches. Et tout le monde m'a dit, comment as-tu pu décider ça? Comment as-tu pu faire ça? T'aurais pas dû. Et alors, je me suis rendu compte que j'ai touché quelque chose. Et l'envie m'est venue de refaire un jour des choses dans ce goût-là pour qu'on me dise, comment as-tu pu faire ça?
Et comment avez-vous pu faire ça?
Et je crois qu'on a évidemment, tout le monde a plusieurs facettes et on peut. J'aime toujours faire des choses pour rire et dessiner pour faire plaisir. Et un air de musique, évidemment, on peut le faire joli et pour amuser celui qui l'écoute. Mais on a plusieurs facettes, je crois, on peut jouer sur plusieurs petits registres. Et je crois qu'on peut s'amuser à dessiner quelque chose de charmant vraiment pour faire plaisir et puis on peut s'amuser à faire un peu peur.
C'est dans le trombone illustré que les idées noires ont vu le jour. En 1977, Franquin et Delporte se sentent de plus en plus éloignés de l'esprit du journal de Spirou, dirigé alors par Thierry Martens.
Oh, quelle horreur ici!
Franquin désapprouve totalement les multiples rubriques d'armes à feu en tout genre et d'aéromodélisme faisant référence à la guerre mondiale et au militarisme.
C'est abominable, tu vois ça?
Et c'est là que Franquin et Delporte auront l'idée de créer un journal dans le journal, le trombone illustré. Un journal pirate concocté dans la cave par Gaston Lagaffe et ses copains, dont le contenu éditorial n'aura rien à voir avec le contenant. Une idée farfelue comme Yvan Delporte en raffole,
oh oui,
et que Charles Dupuis accepte avec enthousiasme puisque proposé par Franquin. C'est la naissance du trombone illustré qui durera 30 semaines et dans lequel les pages s'ouvrent à des auteurs comme Alexis, Bretéché, Bilal, Gottlieb et bien d'autres. Chaque semaine, Franquin réalisait un titre personnalisé qui faisait une demi-page, avec des personnages évoluant autour du lettrage coloré trombone illustré. Pour ce faire, il utilisait un nouvel instrument, le rotring. Même s'il avait fait imprimer le lettrage du titre, il prenait un temps fou à faire vivre ses personnages.
Moi, je sais que je pense que Franquin, ça lui tenait terriblement à cœur.
Marcel Gottlieb.
Il faut voir le travail qui se tapait là-dedans, rien que les titres. Un titre différent pour chaque numéro. Le travail sérieux, j'imagine, de Franquin, c'était Spirou, c'était Gaston Lagaffe. Mais je crois qu'il s'est impliqué terriblement dans le trombone illustré. Je pense que ça a dû être très important pour lui.
Lorsque Numa Sadoul est venu nous apporter les cassettes de ses enregistrements mythiques, on en a profité pour ouvrir quelques micros autour d'une table ronde avec Numa Sadoul, Isabelle Franquin et Philippe Capard. Ouais.
Excellent.
Pour se faciliter les choses, il a fait imprimer le lettrage, donc le lettrage trombone, pour pouvoir dessiner tout autour. Mais se faciliter les choses est quand même un truc qui n'est pas son genre. Et donc, il y a ce vieux cliché, on connaît bien l'histoire. Donc, quand il a dit « Ah, ben aujourd'hui, cette fois-ci, cette semaine, je vais faire une scène qui se passe dans l'espace, comme ça, c'est du noir, c'est beaucoup plus facile. » Mais malheureusement, le rotring est arrivé entre ses mains et il a fait un cosmos avec une pointe de 0,5 mm. Et donc, ça lui a pris toute la semaine. Mais c'est ça qui faisait l'extraordinaire bouillonnement et matière dans ces noirs.
Dont il décrit fort bien cette matière, ce bouillonnement dans et Franquin crée à la gaffe quand il parle des idées noires et des rotrings.
Alors, les idées noires.
Alors, les idées noires, c'est le fruit de ton goût des monstres et de ton tempérament dépressif.
Je ne sais
pas.
C'est
la rencontre des deux. Non, ça part d'où, les idées noires? Ça vient d'où?
C'est pas du tout.
Comment ça, je ne sais pas du tout?
Ça vient d'une... je crois que ça vient d'une tendance à la dépression, mais qui n'était pas mortelle à l'époque, puisque c'est des gags pour faire rire, le type qui s'empale sur une chaise, Dieu sait si ça...
Non mais attends. Non, voyons pas tout de suite, restons dans la généralité. Ouais. Tu faisais encore Gaston quand tu as commencé les idées noires?
Oh oui.
C'était la suite du trombone.
Elles ont commencé dans le trombone. Elles ont paru dans le trombone, oui. Je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis persuadé que ça avait beaucoup d'ennemis. Ça avait beaucoup d'ennemis dans la place.
Et Gottlieb t'a demandé logiquement de continuer ça dans Fluide Glacial.
C'est-à-dire ils ont eu l'idée de faire un numéro de Fluide Glacial, faire la couverture sur un dessin d'idées noires. et de faire paraître dans Fluide Glacial les dessins, les idées noires qui avaient paru dans le trombone, avant sa fin, quoi. Et je n'y aurais pas tellement, il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup. J'ai toujours ce Fluide Glacial. Et alors, quand ça a paru, logiquement, il m'a dit, tiens, si tu veux les continuer, bon, c'est comme tu veux, parce que ici, ça irait bien. Et j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire.
C'est étonnant, toi qui n'as jamais sauté sur les occasions.
Justement. Oui, oui, oui.
Tu n'as pas eu peur, là?
Non, pas tellement, non. Ça me flattait qu'on me demande ça, venant de ce genre de revue, ça me faisait plaisir. Et ça me... Je me suis dit sans doute que ça me changerait les idées.
Enfin, moi, mon seul rôle là-dedans, ça a été de lui demander avec un... avec beaucoup de véhémence, dis donc, tu vas pas arrêter cette merveille, moi je le veux pour Fluide.
Marcel Gottlieb.
Donc, comme lui de son côté s'était impliqué dans le trombone et qui devait être écœuré de cet arrêt brutal, bon, bah, c'était pour lui une occasion. Et on se connaissait un peu, je crois qu'on s'appréciait, enfin, moi oui, mais. Et il aimait bien que les jeunes fassent des trucs comme des journaux, des trucs comme ça. Alors, j'ai eu la chance soit de lui demander le premier, soit la chance qu'il aimait bien ce journal et qu'il a accepté d'y collaborer. Il a quand même collaboré 2 ans et demi. Tous les mois, on recevait régulièrement sa planche. Honnêtement, j'aurais jamais été... trouver Franquin pour lui dire, dis donc, on aimerait bien avoir des pages de toi dans Fluide, mais il faudrait que tu fasses un peu différent de... On ne dit pas ça à Franquin. On ne dit pas ça à aucun artiste, d'abord. Et puis surtout pas à Franquin. Franquin, on lui demande, tu veux, oui ou non? Et si il dit oui, on monte au plafond, puis c'est tout. De bonne heure, quoi.
Et tu as commencé tout de suite à carburer sur le...
Ah oui, j'ai carburé assez facilement. Je suis incapable de dire, si je ne retrouve pas le numéro de Fluide en question, je suis incapable de te dire quelle est la première qui a paru neuve dans Fluide. Je suis incapable de le dire.
Et tu en as fait un par mois pendant X mois comme ça ?
Oui, 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 oui.
En 1996, Franquin accorde à Hugues Daillé ce qui sera sa toute dernière interview.
Les idées noires, j'ai vu il y a très longtemps en Amérique, il y avait un dessinateur comique qui avait eu une idée bizarre, c'était de faire des gags en silhouette noire. Et c'était des gags comiques, il n'y avait pas de texte. Et je n'avais pas vu beaucoup, mais je m'étonne maintenant comment pouvait-il faire chacune de ces planches était un gag qui faisait rire en silhouette noire. Comme ça. Il n'y avait pas, on ne voyait pas les yeux, c'était des silhouettes tout à fait noires. Et je me suis dit, tiens, pourquoi faire une petite série autre dans le trombone illustré? On cherchait des choses à faire dans le trombone illustré, qui soient un peu différentes. Et si je faisais un petit gag, très petit, mais dessiné en noir.
Je me rappelle surtout du numéro de Spirou, dans lequel il y avait le premier trombone illustré, et évidemment la première idée noire de Franquin, où... je me rappelle plus exactement, ça fait quand même un sacré moment, quelle réaction j'ai eue, mais j'ai dû avoir une réaction de surprise terrible. Et en même temps, comme je savais que Franquin était un très très grand technicien, entre guillemets, c'est-à-dire un grand artiste en fait, il était capable de passer du crayon à la gouache, à n'importe quel outil, contrairement à moi qui... cantonne à la plume et puis au crayon, c'est tout. Je me suis dit, tiens, voilà un nouveau Franquin qui apparaît. Et franchement, c'était très étonnant de voir que... Je me demandais comment il faisait, en fait. Je me demandais comment il... Alors après, je lui ai posé des questions, alors il m'expliquait. Il aimait beaucoup... parler de ces techniques.
Et les idées noires, par exemple, ça, c'est...
Ah, c'est une toute autre technique. C'est les mêmes personnages, la même caricature, mais c'est une toute autre technique. C'est fait au porte-plume... comment ça s'appelle ? Rotring. C'est fait au Rotring.
Et donc, si tu veux, je veux bien officiellement faire mon mea culpa.
Oui.
Je suis un petit peu comme Numa, en ce sens que j'ai toujours eu envie de connaître les gens qui sont qui se cachent derrière leur œuvre. Donc, je ne sais pas pourquoi, aussi, depuis très longtemps, j'avais envie de les rencontrer. Et j'avais aussi envie de me donner l'impression que je leur rendais l'appareil d'une certaine manière. Et donc, quand j'ai commencé à utiliser un Rotring, qui était un stylo à encre de Chine assez facile à transporter, pour la première fois, on pouvait se déplacer et faire des travaux à l'encre de Chine sur une terrasse dans un café. J'étais évidemment tout content de pouvoir dire « Hé, Franquin, tu as vu, il y a un nouvel outil », et d'avoir l'impression d'échanger quelque chose. Et bon, là, Isabelle me l'a reproché pendant des années. Parce que l'arrivée du Rotring entre les mains de Franquin l'a fait pinailler d'autant plus, ça a rajouté des petits détails dans tous les coins des cases, aller de plus en plus loin dans le miniaturisme,
dans la complication,
mais aussi dans
le plaisir de
cette matière incroyable.
Grosso
modo, je trouve que je n'ai pas de regrets, je trouve que c'était chouette de lui filer un Rotring.
Il y a des Rotring de plusieurs élèves, des porte-plumes à encre de Chine. Et il y en a plusieurs, les pointes sont à plusieurs épaisseurs. On a le choix entre plusieurs épaisseurs. Et il y a moyen de faire des détails d'une finesse extraordinaire. Et il y a moyen de faire plus gros. De remplir plus gros. Mais c'est toujours un peu du grattage. C'est toujours un petit peu style gravure. Et ça vous oblige, quand vous commencez à gratouiller avec ça, vous en avez pour des heures. Et je me suis souvent traité d'imbécile de mettre 2 heures à remplir telle grande surface de noir avec ça, alors que j'aurais dû le faire en 7 secondes avec un pinceau. Mmh. Seulement, il y avait une raison de le faire avec cette technique-là, c'est parce que ça laissait des blancs qui donnaient un petit air vieillot, moisi et un peu malsain au dessin. C'est pour ça que je le faisais avec cette technique-là.
Et le grattage, ça, tu l'as utilisé assez peu?
Comme oui, parce que je n'ai pas souvent dessiné du brouillard. Hein.
Je me suis rendu compte que les choses, j'ai un dessin en relief et les silhouettes, pour moi, c'est difficile parce que j'ai besoin du relief des bras et des mains. Et c'est devenu, non pas tellement c'était des silhouettes, mais partielles. C'est-à-dire qu'il y avait des lumières dans les silhouettes, on voyait un bras, etc. Et, bon, et des regards, même, etc. Et alors, c'est devenu une espèce. J'utilisais des Rotring comme ça. Des Rotring très pointus. Mais c'était de la gravure, vraiment, et ça prenait un temps fou.
Je me rappelle que celle-là m'avait énormément fait marrer. C'est le chien qui suit le corbillard de son maître, et c'est toujours très émouvant, un chien qui perd son maître et tout. Et à la fin, on se retrouve, dernière image, on se retrouve avec le chien tout seul qui continue à être triste et tout, mais en réalité, ils pensent, quand c'est qu'ils vont me rendre ma babale qui est dans la boîte? Ils ont enterré la babale du chien en même temps que son maître.
Et entre-temps, les gags te venaient facilement chaque mois?
Oui.
Tu ne devais pas te forcer beaucoup pour avoir trouvé des idées noires?
Non.
Vu la conjoncture?
Non, seulement le problème n'était pas de trouver une idée noire, le problème était de trouver une bonne idée noire. Et de la réaliser, parce que c'est un truc qui prend du temps et qui est difficile à faire, qui dans certains cas est fort difficile à faire. Alors il y a eu des idées noires anti-chasseurs.
Oui.
J'avais inventé la marque pendant. Pendant la gueule, pendant l'œil.
Ça, c'était un peu la continuation plus dure de certaines choses de Gaston. Hein?
Oui, peut-être, oui. Mais Gaston n'a jamais.
C'est la version hard du lance-carotte de Gaston.
Oui, il n'a jamais fait que le lance-carotte. Hein. Ce n'est pas une activité anti quelque chose, c'est plutôt une activité pour quelqu'un, pour les lapins.
Et en général, c'est drôle parce que ce ne sont pas purement des ombres chinoises qui ne se détachent sur rien. Parfois, il y a du décor, parfois, il n'y en a pas.
Oui, d'accord. Ça, j'ai cherché.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que du point de vue du dessin, c'est là où tu t'es vraiment donné le plus à fond et où tu as vraiment inventé des choses.
Je ne sais pas. Je crois que c'est dans Gaston que j'ai fait les efforts les plus.
Oui, mais dans Gaston, tu étais dans une tradition, dans quelque chose de connu.
Oui.
Là, tu as inventé quelque chose.
Tu sais, si on analyse bien le style de ces personnages, c'est le même style de caricature, mais je dis toujours que c'est trempé dans la suie, mais c'est ça. On a mis de la mine de crayon sur Gaston et on associe au point de vue style de personnage, je veux dire.
Le gars, y a une manif contre la peine de mort, abat la peine de mort, au chômage le bourreau, et il y a un petit vieux qui est contre, qui est pour la peine de mort et qui est contre la manif, et il y a la fenêtre qui lui coupe la tête. Brûlons la guillotine, et le mec, il se fait guillotiner.
Ah, la guillotine, oui, ça c'est un... c'est un peu plus une prise de position. Je ne dirais pas que je délivre des messages par les idées noires, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas ce qu'on appelle un dessinateur engagé, parce qu'il faut être bien plus documenté que je ne le suis sur les problèmes sérieux. Mais la peine de mort, par exemple, oui, là, nettement, je suis contre, et volontiers, je dessinerai une idée noire.
Vous dites que vous n'êtes pas un dessinateur engagé, mais enfin, il y a quand même des messages qui passent dans vos...
Oh, je dirais pas jusqu'à...
Dans les planches que vous nous présentez.
Je dirais pas jusqu'à message. Non, je crois plutôt que je plaisante avec les peurs de l'époque. Par exemple, si, prendre position contre dans une histoire aussi grave que l'atome, ben, une histoire comme ça, je préfère faire un gag à propos de cette peur qui nous poursuit tous un peu, par exemple. Mais pour prendre position, etc., et combattre pour, je ne suis pas un dessinateur militant, parce que je suis sans doute un petit peu paresseux pour me documenter. Ce sont des problèmes trop graves pour les aborder sans en les étudier très, très fort et très à fond, je trouve.
Et vous les abordez comment, alors ?
Oh, je les aborde par le biais simplement sentimental de la peur et de l'inquiétude. Bon, j'ai lu comme tout le monde pas mal d'articles. Certains savants sont pour, d'autres contre.
Et puis un jour, tu as arrêté.
Oui.
Pourquoi ? C'était le moment où tu as arrêté tout ?
Je ne sais pas, je suppose. Il a paru un album qui a très bien marché. Enfin, très bien, ça n'est pas... C'est pas un Tintin, mais ça s'est bien vendu. Ça a été le best-seller de la maison, je crois, pendant pas mal de temps. Et puis j'ai encore fait la valeur de la moitié d'un album, et puis j'ai arrêté. Mais je ne sais plus j'ai oublié dans quelles circonstances j'ai arrêté.
Moi, je ne me suis jamais fait d'illusion. Je me disais, d'un mois à l'autre, il est capable d'arrêter, parce que ça s'était déjà fait pour d'autres travaux à lui avant. On parlait de QRM sur Pretzelbourg, qu'il a interrompu en plein milieu, mais là, il l'a repris après. Mais je me disais, tant qu'on les a, tant mieux. Puis bon, on verra bien le jour où... Le jour où il voudra arrêter, ben, on ne va pas l'emmerder puis lui dire « salaud », le traiter de tous les noms. C'était déjà beau de l'avoir plus... À chaque mois, c'était un miracle de voir arriver à sa page. Plus ça va, plus ça devenait noir. Mais il y a quand même des gags. Des gags, entre guillemets, parce que c'est des gags qui sont pas vraiment des trucs à hurler de rire. En même temps, il sortait des choses qui lui faisaient mal. Et il les mettait sur... Il les couchait sur le papier. Et peut-être que plus il le faisait, et plus il en souffrait. Et qu'il voulait retrouver la fraîcheur de ses débuts, la fraîcheur de Spirou Fantasio, la fraîcheur même de Gaston, la connerie de Gaston Lagaffe, toutes ces choses qui... parce que c'était quand même lié à l'âge qui venait, ces idées noires. Donc... Peut-être qu'inconsciemment, il voulait retourner à quelque chose de plus jeune, de plus frais, de moins noir.
Merci Marcel. Pour la petite histoire, le message de Gottlieb qu'on a entendu tout à l'heure en début de programme est évidemment un canular, réalisé pour une exposition en 2010. Puisque vous avez été sage et pour finir en beauté, en voici un autre.
Allô, André ? André Franquin, ouais, salut, c'est Marcel. Marcel Gottlieb de Paris. Alors, je suis un peu dans le caca, là, en ce moment, et je viens de terminer une histoire en 10 pages. Malheureusement, elle n'est qu'au crayon. Alors, je voulais te demander, par hasard, est-ce que ça t'ennuierait de me les ancrer ? Ah bon ? Ah bah, dis donc, pour qui tu te prends, toi, alors ? Ça, c'est la meilleure. Ah bah, tu me dégoûtes.
Rires.
qu'on peut s'amuser avec des conneries. Oh, quelle horreur ici. C'est abominable.
Scrooge.
Tom.
De gauche.
Garanti pur schlick.
Bon feu. Quelle merde. Oh, quelle horreur ici. Voilà. Maintenant, je vais nourrir mon chat. Je trouve que ceci est relativement réussi tout de même avec les moyens du bord, mais c'est relativement réussi parce que... Je plaide coupable. On peut s'amuser avec des conneries.